En séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour, lors de la séance du lundi 12 novembre 2012 à l'Académie des sciences morales et politiques, Annie Monteau, linguiste, spécialiste des multiples langues de l'Inde et professeur de Hindi à l'INALCO, a donné une communication dans laquelle elle explique combien en Inde la tradition mythologique, religieuse, reste la source nourrissante de la littérature contemporaine. Entrez grâce à Canal Academy dans la salle des séances, vous entendrez d'abord la présidente pour l'année 2012, Marianne Bassid-Bruguière, qui présente en le résumant le parcours d'Annie Monteau, puis cette dernière, qui a intitulé sa communication « L'imaginaire de la littérature indienne actuelle ».
Nous passons au sujet d'aujourd'hui qui nous ramène à l'Inde pour une incursion dans l'imaginaire et les représentations de la société indienne d'aujourd'hui. Comme pour la Chine, j'ai pensé que nous pouvions essayer cette incursion avec l'aide de la littérature. La littérature indienne de langue anglaise est assez bien connue, on en a les échos dans la presse quotidienne, même en France, et il m'a semblé plus intéressant et peut-être plus pertinent de regarder du côté de la littérature écrite dans toutes les langues vernaculaires de l'Inde. Cette littérature a une circulation qui est en réalité plus considérable que celle de la littérature de langue anglaise, et elle reflète un univers en partie différent et qu'il peut être utile de connaître. Et c'est pour cela que j'ai pensé à vous emmener vers cet horizon grâce au concours de Madame Annie Monteau, qui est professeur de hindi à l'Institut national des langues et civilisations orientales, qui est spécialiste de la littérature indienne sous toutes ses figures, aussi bien la littérature vernaculaire que la littérature en langue anglaise, et qui a vécu longtemps en Inde. Elle y a passé 7 ans après avoir franchi toutes les étapes d'une carrière universitaire parfaite en France, élève de l'École normale supérieure de Fontenay, agrégée de lettres modernes, et elle est partie à l'université de Delhi, où elle est restée 7 ans, où elle a appris l'hindi et d'autres langues indiennes, et puis elle est revenue en France et a enseigné comme professeure à l'INALCO. Elle a publié de très nombreux travaux sur la linguistique des langues indiennes et sur le plurilinguisme en Inde, et aussi de nombreux ouvrages sur la littérature indienne. Je citerai simplement « Littératures indiennes et poétique pluriculturelle », paru aux éditions du CNRS en 2003, « Les littératures de l'Inde », qu'elle avait publié chez Sud en 1987. Elle a également de très nombreux articles dans des revues, dans des encyclopédies. À peu près tous les dictionnaires ou encyclopédies qui en français traitent de l'Inde lui demandent de traiter de la littérature moderne. Elle a traduit de très nombreux romans et nouvelles de littérature indienne, en particulier des œuvres de Nirmal Verma, dont elle nous parlera certainement, de Krishna Baldev Vaid, de Jainendra Kumar, de la femme écrivain Gitanjali Shri, et aussi des poèmes du célèbre poète Kedarnath Singh et de Savitas Singh. Elle a reçu pour ses travaux, pour ses traductions en particulier, plusieurs distinctions de la part du gouvernement indien et des autorités académiques indiennes. Madame Monteau, nous vous écouterons avec très grand plaisir et je suis sûre que nous apprendrons beaucoup grâce à vous.
J'ai peut-être été créditée par Madame la Présidente d'un peu trop de compétences. En particulier, je ne connais pas toutes les langues indiennes. Seule que je connaisse bien, c'est le hindi et sa littérature. Mais je vais faire de mon mieux pour ancrer mon propos dans le cadre général de la culture indienne et pas strictement dans l'orbe indiphone. En présentant d'abord le cadre linguistique, ensuite le cadre culturel et ensuite 2 exemples ou 3 plus concrets d'œuvres littéraires et ce qu'elles peuvent nous dire à nous aujourd'hui. Alors, le cadre linguistique. On discute régulièrement sur le nombre de langues majeures parlées en Inde, 22, 26 ou bien 32, et sur celui des langues tout court, 350 ou 1652, réparties en quatre familles génétiques. Donc indo-arien, presque trois quarts, dravidien, un petit quart, et les deux autres familles, austro-asiatique et sino-tibétain, se partageant les 2% restants. Le multilinguisme indien est en tout cas une réalité officialisée dans la Constitution. Son importance dès l'époque ancienne, observée surtout à travers les contacts entre dravidiens et sanskrits, mais aussi entre austro-asiatiques et sanskrits dans les hymnes védiques, reste un trait de la culture moderne. Aucun État n'est monolingue, la moitié des districts ne le sont pas, et ceux qui le sont ont toujours au moins une variante dialectale dans le répertoire de la communauté, et au moins une section de leur communauté qui pratique les langues voisines et les langues de culture de l'école. Ce bilinguisme explique en partie la remarquable convergence structurelle au niveau phonologique, morphologique et syntaxique que présentent aujourd'hui toutes les langues de chacune des quatre familles parlées dans l'air, au point que les linguistes soviétiques ont pu parler d'une nouvelle famille qu'ils ont appelée la famille indienne. De fait, il y a aujourd'hui plus d'analogies structurelles entre bengali et tamoul, par exemple, qu'entre bengali et français, de langues indo-européennes pourtant. Certes, tamoul et bengali sont restés distincts, ainsi que, d'est en ouest, bengali et panjabi, du côté du Pakistan. Mais le continuum est graduel sur le terrain, au point que les fonctionnaires du recensement ont parfois du mal à obtenir une réponse claire. Les habitants du district frontalier de Ganjam, par exemple, cas d'école, hésitent à se déclarer locuteurs d'Oriya, qui est une langue indo-arienne, ou bien de Telugu, qui est une langue dravidienne. La notion même de langue, en tant que système identifiable et catégorie tranchée, date des premières classifications coloniales, fin 18e, début 19e. C'est elle qui sous-tend les revendications d'identité linguistique qui ont parfois dramatiquement ponctué l'histoire de l'Inde au 20e siècle, de la naissance de l'Andhra Pradesh telugophone en 1952, au redécoupage de l'Assam dans les années 70, à la création du Jharkhand en 2007, et c'est un mouvement qui continue. La notion de langue comme symbole identitaire, source de véritables guerres linguistiques en Inde, est moderne. Le multilinguisme spontané, qu'on appelle là-bas « grassroots multilingualism », caractéristique de l'Inde traditionnelle, exclut l'identification à une langue. Il implique la pratique égale des divers segments du répertoire. Chacune des langues utilisées est propre à une sphère d'interaction spécifique, sans dominance particulière dans l'ensemble du champ des échanges, de sorte que, comme l'a joliment formulé Srivastava, un sociolinguiste indien, « all are part of the whole », toutes les langues font partie du tout, and none is apart, et aucune n'est à part, laissée de côté. Cette dynamique intégrative et non compétitive, associée par Kupchandani à un ethos conversationnel où la volonté d'ajustement amical, serendipity dans ses termes, prime sur l'exigence de correction grammaticale, a garanti le maintien de la diversité linguistique. En tout cas, si on compare par exemple à la France, qui a largement perdu ses dialectes, ou aux États-Unis, où l'évolution dominante a été celle du melting pot. Cette dynamique traditionnelle est évidemment compromise par les dispositions linguistiques de la Constitution, notamment la hiérarchie des langues officielles de l'Union et des langues majeures, et plus encore par l'entrée en scène de l'anglais dans le monde du travail lucratif et dans le système scolaire. Une nouvelle dynamique compétitive s'est mise en place, où l'anglais joue un rôle de plus en plus de langue hégémonique, facteur d'exclusion économique et sociale, mais aussi où il coupe les enfants des familles aisées, systématiquement envoyés dans les écoles English Medium, de leur culture indigène, d'autant plus facilement que ceux-ci sont déjà urbanisés et donc coupés des cultures locales véhiculées par les variantes dialectales des grandes langues régionales. Voyons le contexte culturel qui va avec ce contexte linguistique. S'il est un trait commun, en effet, la tradition littéraire indienne, nécessairement inscrite dans des langues régionales et des référentiels très différents, c'est précisément cette continuité entre les langues, les traditions locales et régionales, voire suprarégionales, qui recoupe partiellement la continuité entre la culture savante, notamment ancienne, et les littératures dites populaires et orales, toujours très vivantes en Inde. C'est du dialogue ininterrompu entre ces deux voies que s'est toujours élaborée la création jusqu'à l'époque moderne. Deux voies que le grand écrivain dravidien Anantamurti décrit comme « front yard » et « backyard » respectivement, c'est-à-dire la cour d'honneur et l'arrière-cour. Il ravive par là l'opposition traditionnelle qu'on fait en Inde entre Marg, la grande route ou la voie royale, et Deshi, le local, l'indigène, qui désigne dans la critique indienne ces deux courants. Croyances locales et grands mythes, spéculations philosophiques et contes, récits ou légendes populaires se fécondent mutuellement en permanence. Ils parlent des langues, des langages, qui constituent, un peu comme au niveau linguistique, les segments d'un même répertoire. Et dans ce répertoire, le passé est un segment du présent. Pour le psychologue des cultures qu'est Ashish Nandi, auteur d'une remarquable analyse sur la perte de soi et le retour à soi avec Gandhi sous la colonisation, le propre de cette circulation interne incessante entre orbes culturels étalés dans le temps, dans l'espace et dans le tissu social, est de constituer un réseau de sous-cultures flexibles, mobiles, sans centre organisateur, mais s'auto-fécondant par un échange permanent et sans cesse co-présente l'une à l'autre. Cette ductilité non orientée a fait durant 20 siècles la vitalité de la culture indienne que lui aussi Ashish Nandi, comme Anantamurti, estime compromise par le rôle que joue désormais l'anglais. Un rôle de culture dominante et non plus de sous-culture parmi les autres. Et il s'ensuit un remodelage du système flou en système organisé pourvu d'un centre hiérarchisant qui tente à devenir hégémonique. Dans le même ordre d'idées, le brillant essai du folkloriste et poète Ramanujan, Is There an Indian Way of Thinking, dégage des littératures indiennes un seul invariant qu'il appelle la réflexivité. Observant comment s'est développé le grand corpus textuel de l'Inde classique, pré-moderne et dans une large mesure moderne, il y voit une vaste réécriture de commentaires en explication, paraphrases, additions, justifications, contre-explications. Chaque texte tirant sa créativité de ce qu'il ajoute au précédent ou de ce qu'il en reformule en l'infléchissant, voire en le subvertissant. Il les réfléchit donc au double sens du terme, puisqu'il les reflète et constitue une réflexion à partir d'eux. La tradition linguistique elle-même en est un bel exemple, puisque le célèbre traité de Panini, qui met en formule le langage de la révélation des hymnes védiques, sert de base au grand commentaire, le Mahabhashya, de Patanjali, 6 siècles plus tard, qui lui-même sert de base à la grammaire de Bhartrihari, 2 siècles plus tard, chaque système élaborant finalement une pensée qui, tout en procédant du même, finit par produire de l'autre. On passe ainsi d'une algèbre des formes grammaticales, avec Panini, à une philosophie du temps et du sens avec Bhartrihari. Mais le texte le plus réécrit est certainement le Ramayana sanskrit de Valmiki, peu avant le début de notre ère, dont les reprises dans toutes les langues vernaculaires peuvent aboutir, au fil des siècles et des ancrages sociaux de leurs auteurs ou de leurs acteurs, à une totale subversion du modèle original. Quant au Mahabharata de Vyasa, même époque, la grande bataille fratricide qui a, aiment dire les Indiens, tout dit, les bardes de l'Himalaya occidental en chantent encore aujourd'hui une version en garhwali qu'ils donnent comme plus ancienne que celle de Vyasa et qu'ils ponctuent de références à l'actualité sociale et politique de leur localité. Dharmavir Bharati, grand auteur hindi, en a réécrit au lendemain de la partition, après 50 de ce siècle, entre l'Inde et le Pakistan, la dernière journée en vers. On y voit Krishna, le dieu responsable du massacre du clan Kaurava et le grand conseiller des temps malades, présider au désastre bilatéral avec des allures de Gandhi et prôner la vraie connaissance comme seul apte à faire reculer le cours des astres. Le refus du déterminisme de l'histoire passe ainsi par cette vraie connaissance qui est décrite comme renoncement au pouvoir, à l'intellect et aux affects personnels, bref, à tout ce qui définit l'individu comme sujet autonome de conscience. Cette prolifération de réécriture que constitue le corpus littéraire indien, c'est aussi un foisonnement de voix diversement critiques, mais une critique interne, issue de l'intérieur du système, capable donc de le faire évoluer, voire de le subvertir sans le détruire, comme le souligne Ashish Nandi, qui voyait là la force de Gandhi par rapport aux réformistes ou aux terroristes, guillemets, occidentalisés. Car Gandhi souhaitait construire l'indépendance sur des cadres cognitifs qui ne devaient rien à ceux de la puissance coloniale. Là encore, on voit bien comment l'entrée en scène de l'anglais, en rupture avec ce continuum aussi bien linguistique que culturel, vecteur d'une rationalité fondée sur l'objectivation des observables et sur la souveraineté de l'homme, peut altérer, voire anéantir, ce mode de fonctionnement. Et donc, je m'intéresse, comme il a été dit, aux littératures vernaculaires, notamment hindi, la seule que je connaisse de première main. Et je vais vous donner quelques exemples. Un des plus grands, mais en tout cas certainement le romancier essayiste le plus célébré de l'Inde contemporaine, qui est Nirmal Verma, qui donne à voir cette continuité, qui lui donne une expression particulièrement claire en l'articulant sur la perception du temps et du moi. La continuité, c'est d'abord, pour Nirmal Verma, l'incapacité à objectiver sa propre culture comme patrimoine événementiel, architectural ou textuel. Je le cite. Alors que la philosophie occidentale classique voit le corps comme une fenêtre, cadre, grâce auquel l'âme peut voir le monde connaissable, à l'inverse, dans la vision indienne, la fenêtre est le monde, comme elle est aussi l'âme, dont le corps ne se distingue pas. Et donc, quand je regarde par la fenêtre le même paysage inchangé d'arbres, de rivières, d'animaux que mes ancêtres ont vu des siècles avant moi, je ne suis pas un simple spectateur d'un environnement, je suis dans et non à l'extérieur de ce que je vois. J'en fais partie, j'en suis indifférencié, et ce sentiment d'empathie me fait un avec le temps et avec le monde. Il y a une relation interne qui m'unit à tous les composants, comme elle unit les composants entre eux. Et cette unité spirituelle, qu'il appelle littéralement une âme, et atma, entre celui qui regarde et le regardé, est un plus sûr garant de vitalité et de sympathie, ou d'empathie, c'est-à-dire le fait d'être de même âme, atmita, que la fragmentation en segments distincts imposée par la vision occidentale entre homme et paysage. Bref, conclut Nirmal Verma, mon sentiment d'appartenance à la culture indienne ne réside pas dans le simple fait d'appartenir à un segment de l'espace habitable appelé Inde, mais de vivre dans un temps tout englobant qui m'est intégralement contemporain. Fin de citation. Cette inaptitude à séparer le passé du présent et du futur, manifestation typique de ce que d'aucuns considèrent comme la conscience mythique ou antéhistorique, trouve sa métaphore en Inde dans la roue, celle du drapeau indien, mais aussi le rouet de Gandhi. À la fois rotation infinie de la roue et fixité du moyeu, la roue reflète la fluidité du temps, je recite Nirmal Verma, naturel, qui ne progresse pas d'un début à un milieu et une fin, qui ne privilégie pas le changement et qui ignore l'irréversibilité. Ce mode de conscience a été en Inde, comme dans toutes les sociétés colonisées, brutalement refoulé par la conscience historique. Refoulée, mais pas annihilée, car elle subsiste dans l'intimité du moi ou du subconscient, ou, comme la mémoire proustienne, qui condense dans, chez l'artiste donc, condense dans le présent éternel du temps retrouvé, le flot des événements passés. Cette perception du temps comme présent englobant, présent éternel, est ici corollaire de l'indissociabilité du sujet regardant et de l'objet vu et du processus de vision, thème rebattu de la théorie de la connaissance dans les traités classiques. Elle est aussi corollée par Nirmal Verma à l'inaptitude à tracer des limites claires entre le dedans et le dehors, le moi et l'autre, à séparer l'individu des autres éléments de la création. Et elle rejoint la description du moi que donne l'auteur dans un autre essai sur le roman contemporain. Je le recite, à la différence du roman occidental enfermé dans l'exploration de l'ego ou des réalités extérieures, le roman indien est la voix d'un moi qui déborde l'ego, avec ou sans son ça ou son surmoi, et se confond avec le soi, self en anglais, qui est aussi, en hindi sanskrit, le principe cosmique et le pronom réfléchi, atma, atman. Le sujet indien, nous dit-il en effet, est la forme élargie de l'ego, forme qui englobe la totalité du monde créé, de la nature, des autres créatures vivantes et des créatures non animées. En quoi il nous ouvre la porte de l'univers de la relationnalité, où chaque entité, dit-il, n'existe que par sa relation à l'ensemble des autres entités, du monde naturel et sacré, vibre et respire avec elle. À l'individu comme unité autonome, il oppose l'être humain, manouche, qui n'est pas plus au centre de la création que l'arbre, la divinité locale ou la pierre, mettant ainsi l'homme à l'opposé de l'individu. On peut montrer comment ces idées de Nirmal Verma sont réalisées, sans métadiscours, dans l'œuvre romanesque, par diverses procédures stylistiques de l'indétermination, par exemple usage spécial de l'approximatif portant sur le nom ou la proposition, ou bien emploi massif d'un imparfait détemporalisé sans équivalent en français, ou bien une ponctuation particulière avec des tirets qui suspendent la mélodie phrastique et diluent la logique syntaxique. Toute procédure qui étaye la forme de la structure narrative, elle-même construite comme une fugue. Ces techniques formelles accompagnent la quête de vérité des personnages, presque toujours adolescents ou vieillards, à l'orée de la vie ou de la mort. La critique de l'individu, ce qui n'est pas la même chose que celle de l'individualisme, n'est pas l'apanage de Nirmal Verma. Elle est rémanente en Inde, où le renoncement reste un des buts de l'homme acceptable et encore aujourd'hui valorisé. Le mot qui le nomme étant du reste désindividuation, le mot qui dit renoncement, détachement. La conscience de soi comme sujet non séparé, véritable dogme culturel de la non-separateness, a fait l'objet de deux études très importantes, même si anciennes, de sociologues et psychanalystes. Pour Richard Lanois, l'enfant construit son moi dans l'environnement hyper protégé de la famille étendue, où il n'est pas poussé aux conduites d'autonomie et de responsabilité, où il est confronté à une pluralité de figures masculines, généralement moins valorisées que le pôle maternel, donc dilution du pôle de la loi. La relation de fusion avec la mère, prolongée jusqu'à l'âge adulte, ne favorise pas la distinction entre intérieur et extérieur, c'est-à-dire la constitution du moi en tant que sujet coupé de ses objets. Le rôle de l'objet restant joué par la mère pendant très longtemps, de nombreuses fonctions du moi sont donc transférées à celle-ci, puis à la hiérarchie des institutions sociales, comme la caste, le clan, etc. D'où la difficulté de l'adulte à se constituer en tant que sujet séparé, responsable, autonome et critique, d'où sa tendance, au contraire, à valoriser la fusion dans le grand tout, propre à la stase du narcissisme primaire. Une tendance que le psychanalyste Sudhir Kakar, auteur d'un livre traduit en français sous le titre « Le monde intérieur », qualifie sévèrement de « sous-développement du moi ». Népal, reprenant ce diagnostic dans les années 70, au moment où il avait une vision noire de l'Inde, une civilisation blessée par exemple, il voit la cause même de la maladie de l'Inde, déresponsabilisation et léthargie généralisée. Veda, l'écrivain le plus diffamé, Krishna Baldev Veda, le plus diffamé de l'Inde, objet de plusieurs procès pour obscénité, et pour malpensance politique, et aussi grand agnostique mystique, montre au contraire, dans son roman sur la partition Requiem pour le temps passé, comment l'inaptitude à assumer une identité claire peut servir d'antidote à la violence communautaire. Le narrateur et sa bande de copains, libres des tabous religieux, alimentaires et sexuels des adultes, partagent avec un vieil excentrique la passion de déchiffrer les identités contradictoires, fluides, de tous les habitants d'une petite bourgade du Punjab. Le style même de la narration, avec ses reformulations qui transforment sans arrêt les référents en leur contraire ou en leur possible, métaphores, caricatures, modalisations généralisées, manie de la conjecture, de la négation qui se nie elle-même, défait opiniâtrement la notion même de catégorie différentielle et fonde la contestation des identités tranchées dans un scepticisme généralisé, appuyé chez lui sur l'humour et l'autodérision, ce qui n'était pas le cas du précédent auteur dont je vous ai parlé. Et si le fantastique comité de la paix, auquel participent tous ces protagonismes du roman Requiem pour un temps passé, sur la partition, ne parvient pas à empêcher les massacres, c'est qu'ils ne sont qu'une poignée d'illuminés à développer à leur façon les théories au fond gandhiennes de la personne, qui ne parvient pas à se voir comme autre de l'autre, dit cet auteur, ne pourra jamais tuer. Se faire tuer, oui, mais tuer, non. Nand Kishore Acharya, dans un petit livre dense sur la grammaire de la culture, montre très bien qu'une culture qui ne définit pas le moi comme distinct de l'autre, qui ne repose pas, comme la culture occidentale moderne, sur la notion d'individu, ou du moins ne la centralise pas, se garantit d'emblée des dérives totalitaires, communautaires, de l'exploitation d'un groupe ethnique, géographique ou social, mais aussi des dérives plus subtiles qui consistent à exploiter la nature comme une ressource si celle-ci n'est pas perçue comme un partenaire vivant, voire souvent comme le séjour d'une divinité. L'idée du dialogue respectueux entre l'homme, son habitat et ses dieux est un corollaire important de la représentation du moi en Inde, traditionnelle. Elle affleure dans toute l'œuvre du romancier Nagarjuna, pseudonyme emprunté au grand logicien bouddhiste du même nom, Nagarjuna, qui pourtant était un marxiste radical et même sympathisant des naxalistes, c'est-à-dire des groupes maoïstes actifs dans le Bihar et le Telangana, par exemple. Les fils de Varuna, un de ses romans, c'est l'histoire de pêcheurs de basse caste qui parviennent à sauver leur lac de l'usurpation des grands propriétaires en conjuguant l'amour qu'ils ont pour ce terrain communal sous la protection de Varuna, le dieu des eaux, leur analyse de l'exploitation des latifondières et leur énergie indomptable parce qu'elle est soutenue par leur foi en Varuna. Point. Baba, le seigneur des Banyanes, autre roman du même auteur, c'est l'histoire du sauvetage d'un terrain communal rendu à ses usagers par l'intercession du Banyan, qui, toutes les nuits, un ficus géant dans ce village, cet arbre, toutes les nuits de pleine lune, se met à parler au jeune garçon, révolté par l'injustice, et à lui raconter les 200 ans d'exploitation coloniale et cléricale qui ont précédé la menace récente d'expropriation. Et c'est ce récit qui permet au jeune garçon de mieux comprendre et d'ajuster sa stratégie pour sauver le bien commun. Là encore, l'écriture elle-même nourrit des références à la grande mythologie comme aux croyances locales, du registre régional des cultures matérielles et de figures stylistiques qui relèvent à la fois du registre écrit et du registre oral, dit la connivence entre tous les étages de la culture traditionnelle, comme entre l'homme et ses dieux, mieux qu'aucun métadiscours. Il en va de même des œuvres poético-techniques d'Anupam Mishra, spécialiste de la culture de l'eau en milieu désertique, lorsqu'il décrit les techniques de collecte et de stockage de l'eau qui ont pendant des siècles assuré à la ville de Jaisalmer la prospérité d'un grand centre commercial et culturel sur la route de la soie avec à peine 160 mm d'eau par an. Une prospérité fortement dégradée depuis que la gestion populaire des biens communs a été remplacée par l'administration centrale et une technologie ignorante des savoirs traditionnels de l'eau, comme du lien profond entre l'usager, son habitat et son éthos religieux. L'éthique de respect et d'amitié entre l'homme et l'usager, son environnement et son habitat, qui se manifeste aussi dans la beauté des temples et des pavillons qui se construisent au bord des lacs et des bassins, autrement dit au bord des engins techniques, autour et avec les engins techniques, se fonde en effet sur la conviction que les humains, la nature et les dieux sont solidaires, ce que véhiculent les noms mêmes des engins techniques et des légendes toujours vivantes qui leur sont associées dans le désert du Thar, au Rajasthan. Les mythes et les croyances locales sont donc loin de représenter un facteur d'évasion ou de léthargie, ce que Mrinal Pandey montre très bien dans « Stories of the Goddesses in Our Times », les histoires de la déesse à notre époque, présentation des grandes déesses de la mythologie classique tissées à leurs avatars dans les croyances locales et à l'histoire de quelques héroïnes anonymes d'aujourd'hui, des paysannes, des ouvrières sur les chantiers, qui, fortes de leur seule croyance en ce folklore, ont su se dresser contre l'injustice. Je cite Mrinal Pandey, auteur de cet ouvrage, qu'en abandonnant le folklore aux masses ignorantes, en ignorant les récits populaires et les légendes, nous nous privons nous-mêmes de l'histoire. Et elle rappelle par là implicitement que le mot qui traduit aujourd'hui « history »,« itihas », littéralement « ce qui a été » ou « ce qui a été raconté », désignait aussi, dans son sens ancien, les récits légendaires. Certes, il y a dans l'Inde d'aujourd'hui des suicides massifs de ces paysans ignorants, dit-on, victimes du coton bété, du maïs 810, des agro-semenciers. Mais il y a aussi les paysannes himalayennes qui tiennent tête à Monsanto, dans le refus du brevetage du Nîmes ou du riz basmati, et après avoir tenu tête à l'armée indienne venue soutenir les forestiers qui détruisaient leurs bois dans le mouvement Chipko, par exemple. Et elles ne sont pas handicapées par leurs croyances archaïques, entre guillemets, dans leur action pour une justice globale. Et pour elles, une justice globale commence localement. Et on peut imaginer que les schèmes classiques de la culture indienne, sa vision du temps, du moi qui englobe l'autre, du continuum entre dedans et dehors, entre univers sacré et culture matérielle, entre culture des récits légendaires et du folklore, bref, et grande tradition écrite, propose un humanisme aussi universel et plus humain que celui auquel a abouti, peut-être involontairement, la dimension occidentale dans le monde aujourd'hui.
Vous venez d'entendre Annie Montaud. Le texte de sa communication est disponible sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques www.asmp.fr. Toutes les communications de l'année 2012, série intitulée par la présidente Marianne Bassid-Bruguière « Asymétrie et force neuve du monde actuel » sont enregistrées par Canal Académie, disponibles à l'écoute et au téléchargement en libre accès permanent.